cours de biologie animale dispensé à l'Université de Sarre, Faculté des sciences agronomiques et de l'environnement, par le chargé de cours Mike Etzinger, dans le cadre de l'unité d'enseignement biologie animale LPE 232. Pour un volume horaire de 45 heures réparties en 25 heures de cours magistraux, 8 heures de travaux dirigés et 7 heures de travaux pratiques. Deuxième partie. Initiation à l'étude du monde animal. Plan du cours. Présentation du règne animal. Introduction. Quelques définitions. Biologie. La biologie est la science qui étudie les êtres vivants. Oologie. D'après Linné, le monde vivant se divise en deux règnes, animal et végétal. La zoologie s'occupe de l'étude des animaux au sens large. Caractères généraux du monde vivant. En dépit de la diversité du monde vivant, des différences entre animaux et végétaux, des différences au sein même des animaux d'une part et des végétaux d'autre part, le monde vivant montre des caractères communs. La communauté d'organisation. Tout être vivant est fait d'une ou de plusieurs cellules. La cellule est l'unité fondamentale du monde vivant, avec pour matière vivante le protoplasme. La communauté de constitution chimique. Les cellules sont constituées de glucides, de protides, de lipides et de sels minéraux. L'unité physiologique, elle est donnée par sept phénomènes. Le mouvement. Tous les êtres vivants ou certaines de leurs parties sont capables de mouvements autonomes. Les animaux se meuvent à l'aide notamment des pattes, des ailes ou des nageoires. Les plantes se meuvent par la croissance, leurs racines s'enfoncent dans le sol et leurs branches croisent dans l'air ou en direction d'une source lumineuse. Il existe dans toute cellule des mouvements de cyclose. La cyclose désigne le mouvement du cytoplasme d'une cellule. Le mouvement est généralement circulaire, d'où le nom de cyclose, est repérable grâce au déplacement des organites cellulaires. La vitesse du mouvement est généralement influencée par l'exposition lumineuse, la température et le pH. La sensibilité. Tout être vivant est sensible à certains changements de l'environnement. Plusieurs animaux se servent des organes de sens tels les yeux et les oreilles pour se renseigner sur leur entourage. Les plantes sont démunies d'organes des sens, elles sont cependant capables de réagir en présence des éléments comme la lumière, avec par exemple le phototropisme positif ou négatif, croissance ou orientation d'une plante vers la lumière comme le phototropisme du tournesol. La nutrition. Tout organisme ingère et assimile les matériaux pour la croissance et le maintien, c'est-à-dire que tout être vivant est capable d'élaborer certains de ses éléments constitutifs. Les végétaux sont capables d'élaborer leurs constituants à partir des corps simples inorganiques, comme le dihydrogène, le dioxygène, le carbone, l'azote ou le phosphore, qu'ils transforment en corps complexes organiques, comme les protides, les lipides ou les glucides. De ce fait, ils sont dits autotrophes. Les animaux sont en général incapables d'élaborer leurs constituants à partir des corps simples. Pour ce faire, ils utilisent des corps complexes organiques, on dit qu'ils sont fondamentalement hétérotrophes. La croissance, une roche croît par accumulation à sa surface de nouveaux matériaux. Un organisme croît par un processus faisant intervenir l'ingestion de nouveaux matériaux à partir de l'extérieur et leur incorporation subséquente dans leur structure interne. Ce processus est nommé assimilation. Les animaux croissent jusqu'à une certaine taille correspondant à celle de l'adulte. Plusieurs plantes croissent continuellement durant leur vie. La respiration. Tout être vivant a besoin d'énergie pour ses mouvements, la croissance et le fonctionnement des différents organites ou organes. Cette énergie est obtenue à partir de la nourriture via un processus appelé respiration. Au cours de ce phénomène, les réactions chimiques ont lieu entre les nutriments et l'oxygène, avec libération d'énergie sous forme d'adénosine triphosphate. L'excrétion, les réactions chimiques qui ont lieu à l'intérieur de l'organisme aboutissent à la formation des déchets toxiques comme l'urine. L'excrétion désigne le processus par lequel ces déchets sont éliminés. La reproduction. Tout être vivant se reproduit pour remplacer les individus morts. Si dans une espèce les individus ne se reproduisent pas à un rythme suffisant pour remplacer leurs morts, celle-ci connaîtra l'extinction. Certains petits êtres vivants se reproduisent par division binaire. Ceci est un exemple de reproduction asexuée. Dans plusieurs groupes d'animaux, il y a des mâles et des femelles qui s'accouplent et produisent des jeunes. Ceci est un cas de reproduction sexuée. De nombreuses plantes à graines, ou spermaphytes, ont des organes sexués qui produisent des graines et ces graines se développent pour donner de nouvelles plantes. Ceci est un autre cas de reproduction sexuée. L'unité des phases d'existence. Tout être vivant naît, se développe et meurt. Branches de la zoologie. La zoologie comprend plusieurs branches qui correspondent à autant de disciplines. Nous citerons quelques-unes d'entre elles. Basées sur l'étude des propriétés des organismes. Morphologie, étude des formes et de la disposition des organes qui constituent les animaux. anatomie, morphologie interne, cytologie, étude des cellules, histologie, étude des tissus, physiologie, étude du rôle et du fonctionnement des organes, des tissus, des cellules, éthologie, étude des mœurs et du comportement des animaux, embryologie, étude des organismes en voie de développement, depuis l'œuf fécondé jusqu'à la réalisation d'une forme capable de vie autonome et active, basée sur l'étude des propriétés de groupes d'animaux. Acarology, ichthyology, herpetology, malacology, ornithology, mammalogy, entomology, batrachology, helminthology, protozoology, apodology, hymenopterology. Basée sur l'étude des populations. Écologie, étude des rapports entre l'animal et son environnement. Zoogéographie, étude de la répartition des animaux sur la planète Terre. Systématique ou taxonomie, étude de la classification des animaux. Génétique, étude de la transmission des caractères héréditaires de génération en génération. Évolution, étude de la transformation des animaux de l'origine à nos jours. Notion d'évolution. L'évolution est la branche de la biologie qui a pour objet l'étude de la transformation des animaux de l'origine à nos jours. Les espèces animales contemporaines sont les derniers maillons de longues chaînes de formes différentes et disparues. Elles portent les transformations potentielles futures. Certains savants grecs de l'Antiquité croyaient déjà que les êtres vivants pouvaient se transformer avec le temps. Ainsi, au 5e siècle avant notre ère, Anaxagore pensait que chez les animaux, les espèces les plus complexes sont issues des espèces élémentaires. Mais ce n'est qu'au 19e siècle, environ 2000 ans plus tard, que l'idée d'évolution s'est imposée comme concept scientifique. C'est Lamarck qui le premier expose une conception dynamique du vivant. Darwin a établi définitivement la notion d'évolution avec son livre intitulé « De l'origine des espèces par la sélection naturelle », paru en 1859. Pour Darwin comme pour Lamarck, il existe un seul arbre généalogique pour l'ensemble du monde vivant. Ceci choque beaucoup certains opposants de Darwin qui retiennent des écrits de ce dernier que l'homme descend du singe, ce que le savant n'a jamais dit. En effet, pour Darwin, le singe et l'homme ne sont que des cousins qui possèdent un lointain ancêtre commun. Ainsi, des espèces nouvelles ont succédé à des espèces anciennes. Darwin explique cette relève par la théorie de la sélection naturelle. Les formes vivantes les mieux adaptées aux contraintes du milieu ont prospéré, tandis que les plus faibles se sont progressivement éteintes. Selon cette théorie, chaque espèce a développé, au fil du temps, des caractères qui lui ont permis de mieux répondre aux contraintes de son environnement. Darwin, tout comme Lamarck, pense que les caractères acquis se transmettent d'une génération à l'autre. L'idée est fausse. À l'époque, on ignorait encore tout de la génétique, qui permettrait un peu plus tard de mieux expliquer l'évolution. C'est Mendel qui découvrit les lois génétiques de la transmission héréditaire des caractères. En somme, la vie a commencé par des organismes élémentaires qui se sont graduellement transformés. On peut reconstituer l'histoire naturelle dans ses grandes lignes grâce aux fossiles que livrent les couches terrestres et qui révèlent la progression de la vie au fil des âges. De nos jours, le transformisme de Lamarck reste plus vivant que jamais et la sélection naturelle de Darwin est une explication indispensable à de multiples phénomènes de l'histoire de la vie. Outre la paléontologie et la génétique, l'évolution se sert notamment de l'anatomie comparée et de l'embryologie, avec la loi biogénétique ou loi de Haeckel qui stipule que l'ontogenèse résume la phylogenèse. C'est-à-dire que lors du développement d'un individu, il y a récapitulation des grandes étapes de développement de la lignée à laquelle il appartient. Exemple, cycle de développement des batraciens, développement humain. Nomenclature zoologique. La nomenclature est l'appellation d'un animal. Depuis les travaux du naturaliste suédois Linné, la nomenclature universellement adoptée est binominale. Tout individu animal reçoit deux noms latinisés. Le premier est le genre et commence toujours par une lettre majuscule, le second est l'espèce et commence toujours par une lettre minuscule. À ces deux noms peuvent être ajoutés un troisième nom commençant par une minuscule et latinisé, qui est la sous-espèce, un nom de personne ou l'initiale d'un nom de personne, commençant par une majuscule et désignant celui qui a décrit pour la première fois l'espèce ou la sous-espèce, un nombre qui est l'année de parution écrite de cette description. Les mots latins ne comportent pas d'accent. Dans un texte imprimé, ils s'écrivent dans une typographie différente, et ils sont soulignés d'un trait dans un manuscrit. Exemplos. Anophel Gambier Gilles 1902, principal complexe d'espèces cryptiques vecteurs du paludisme sévissant en Afrique. Chrysotomie gambianus, rat de Gambie ou rat palmiste. Loxodonta africana africana. Elephant africain de savane. Feuilly Léo Linné 1758, Lyon. Citophilus Orizé Linné 1758, Charançon-du-Ry. Api Mellifica Linné 1761 ou Api Mellifera Linné 1758. Abeille mellifère ou abeille domestique ou abeille mellifique. L'unité fondamentale de la systématique est donc l'espèce qui peut être définie comme une collection de tous les individus nés les uns des autres ou des parents communs, de ceux qui leur ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux. De cette définition formulée par Cuvier, trois notions capitales peuvent être tirées. Ressemblance, descendance ou filiation, parenté. Hierarchy systematique. Les règnes représentent le plus haut niveau de la hiérarchie linnéenne. À l'origine, Linné n'avait décrit que deux règnes, les plantes et les animaux. Actuellement, on connaît six règnes, bacteria, ou bactéries, archaea, ou archées, organismes semblables aux bactéries connues pour leur capacité à vivre dans des conditions environnementales extrêmes, protista, planta, fungi et animalia. Depuis peu, les biologistes utilisent un niveau supérieur à celui des règnes, les domaines. Il y a trois domaines, bacteria, archaea et eucaria, ou eucaryotes, tous les autres organismes n'appartenant pas aux deux premiers domaines. La hiérarchie suivie dans le cadre de cet enseignement sera celle prescrite par la systématique linnéenne qui est encore très largement utilisée de par le monde. D'après Linné, le règne animal est divisé en deux sous-règnes, protozoaires, animaux unicellulaires, et métazoaires, animaux pluricellulaires. Chacun de ces sous-règnes regroupe des embranchements. Un embranchement est un grand groupe d'individus bâtis selon un même archétype, type d'organisation fondamentale. Les principales catégories systématiques inférieures à l'embranchement sont les suivantes, dans l'ordre décroissant de leur niveau. Classe, ordre, famille, genre, espèce. Cadoanopheles gambier. Embranchment. Arthropods. Classe, insectes. Ordre, diptères. Famille, culicidés. Genre, anopheles. Espèce, gambier. Cadura palmiste. Embranchment. Vertebrates. Classe, mammifères. Ordre, rongeurs. Famille, chrysétidés. Genre, chrystomie. Espèce, gambianus. Cas de l'éléphant africain de forêt. Embranchment. Vertebrates. Classe, mammifères. Ordre, proboscidien. Famille, éléphantidés. Genre, loxodonta. Espèce, africana. Cas du chat. Embranchement. Vertebrates. Classe, mammifères. Ordre, carnivore. Famille, félidés. Genre, feli. Espèce, catus. Cas de l'homme. Embranchement. Vertebrates. Classe, mammifères. Ordre, primates. Famille, hominidés. Genre, homo. Espèce, sapiens. Il existe des catégories systématiques intermédiaires. On distingue par exemple des sous-embranchements, sous-classes, sous-genres, sous-espèces, super-classes, super-ordres et super-familles. Qu'à des abeilles productrices des plus grandes quantités de miel au Cameroun. Embranchment. Arthropods. Sous-embranchement. Anténates. Classe. Insectes. Sous-classe. Ptérygotes. Super-ordre. Hyménoptéroïdes. Ordre. Hyménoptères. Sous-ordre. Aculéates. Super-famille. Apoïdés. Famille. Apidés. Sous-famille. Apinés. Genre. Api. Espèce. Mellifera. Sous-espèce. Adansonii. Cas du Charançon-du-Ry. Embranchment. Arthropods. Sous-embranchement. Mandibulates. Classe. Insectes. Sous-classe. Ptérygotes. Super-ordre. Coléoptéroïdes. Ordre. Coléoptères. Sous-ordre. Hétérogastres. Super-famille. Phytophagoïdés. Famille. Curculionidés. Genre. Citophilus. Espèce. Orizée. D'autres termes sont parfois utilisés pour opérer des regroupements ou des coupures supplémentaires. Division, tribu, section, cohorte, groupe, etc. Détermination ou identification d'un animal. Recherche des groupes taxonomiques auxquels il appartient, par exemple classe X, ordre Y, famille Z, etc. Ceci conduit à sa classification, justifiée ou non. Clé dichotomique. Exemple, ordre d'insectes. Elle présente deux paires d'ailes, ordre des hyménoptères. Elles présentes, une paire d'ailes, ordre des diptères. Elles absentes, ordre des collemboles. Il existe des espèces absolument identiques, c'est-à-dire ayant un même caryotype. Ces espèces sont issues de la reproduction asexuée. Ce sont des jordanons qui se rencontrent chez les animaux inférieurs. Les jordanons s'opposent aux linéons qui sont de grandes espèces hétérozygotes provenant de la reproduction sexuée. La majorité des espèces animales sont des linéons. Jadis, la systématique se contentait de donner un nom à un individu ou groupe d'individus. La systématique scientifique contemporaine, tout en donnant un nom à un individu, permet de le situer dans le règne animal. Elle se heurte cependant à quelques difficultés, notamment les problèmes de convergence et ceux de divergence. La convergence veut que des animaux appartenant à des groupes différents aient des caractères communs. Exemple, les chauves-souris dont le corps a une forme aérodynamique et qui volent comme les oiseaux, alors que ce sont des mammifères. Les baleines qui ont un mode de vie aquatique caractérisé en partie par la forme hydrodynamique du corps comme chez les poissons, alors que ce sont des mammifères. La divergence veut que des animaux d'un même groupe aient des aspects différents. Exemple, la baleine et le bœuf ont des modes de vie différents, une forme de corps différente, alors que ce sont des mammifères. Ces problèmes sont résolus en utilisant simultanément les données fournies par les disciplines comme la morphologie, l'anatomie, l'embryologie, la génétique et la paléontologie. Classification sommaire des animaux. Elle sera limitée aux principaux embranchements ou phylums. Les embranchements ou clades correspondent à des types d'organisation. On peut représenter le règne animal par un arbre généalogique sur lequel les différents embranchements sont des rameaux ou phylums dérivant d'un même tronc dont la base correspond aux organismes primitifs comme les virus, les bactéries et les protistes. Les unicellulaires ou sous-règnes des protozoaires. Leur classification est basée principalement sur l'appareil de locomotion. On peut distinguer les principaux embranchements ou phylums suivants. Mastigophora, l'appareil est fait d'un ou de plusieurs flagelles. C'est l'ancien embranchement des flagellés, comme Trypanosoma gambiens. Rhizopoda ou Sarcodina, l'appareil locomoteur est constitué de pseudopodes, fausses pattes. C'est l'ancien embranchement des rhizopodes. Ces protozoaires ont en commun d'émettre des expansions de leur cytoplasme connu sous le nom de pseudopodes, phylopodes ou lotoïdés. Ciliophora, l'appareil de locomotion est fait de cils. C'est l'ancien embranchement des ciliés. Myxozoa ou Apicomplexa, il n'y a pas d'appareil locomoteur bien défini. Leur cycle de développement commence par un germe amiboïde binucléé appelé sporoplasme et passe par un stade uninucléé appelé plasmode. C'est l'ancien embranchement de Cnidosporidie. Sporozoa, il n'y a d'appareil locomoteur bien déterminé. Ils sont des parasites intracellulaires des vertébrés et des invertébrés. C'est l'ancien embranchement de sporozoaires. Les pluricellulaires ou sous-règnes des métazoaires. Les métazoaires sont des organismes pluricellulaires eucaryotes appartenant au règne animal. La cellule étant l'unité de base de la vie, l'évolution des organismes plus grands que les protozoaires s'est développée par agrégat de cellules individuelles. Dans la nature, les organismes unicellulaires de grande taille tels que certaines algues sont rares. L'apparition des organismes pluricellulaires a pour avantage principal d'accroître la surface d'échange cellulaire et par conséquent d'accroître l'intensité des activités métaboliques. Ceci n'aurait pas été possible au niveau d'une cellule isolée. Caractères généraux des embranchements de protozoaires. Ce sont des animaux unicellulaires. Leur morphologie est extrêmement variable. Dans ce groupe se retrouvent des formes très simples à côté de formes hautement complexes. Ils sont pour la plupart microscopiques, mais leur taille varie de quelques micromètres, comme Plasmodium, à quelques millimètres, comme les grégarines. Le noyau et le cytoplasme sont également variés. Ils sont unis ou plurinucléés. La partie centrale du cytoplasme appelée endoplasme est souvent distinguée de la partie périphérique appelée ectoplasme. Divers modes de vie sont représentés, libres, parasites, commensaux, mutualistes, à habitat aquatique ou terrestre. Certains sont coloniaux et d'autres comportent des stades pluricellulaires dans leur cycle de développement. La locomotion est le fait de pseudopodes, cils, flagelles et mouvements cellulaires directs. La reproduction est parfois asexuée par fission binaire ou par bourgeonnement. Elle peut également être sexuée par conjugaison ou par syngamie, union d'un gamète mâle et femelle pour former un œuf. La digestion s'effectue dans les vacuoles digestives ou phagosomes. L'excrétion s'effectue grâce aux vacuoles contractiles. Fonction des organismes protozoaires. Vu la diversité de leurs formes, modes de vie, habitat, nutrition, etc., plusieurs fonctions sont propres au sous-règne des protozoaires. Locomotion. Les organites locomoteurs sont principalement les cils, les flagelles et les pseudopodes. Cils et flagelles. Plusieurs cellules de protozoaires et de métazoaires utilisent ces structures pour la locomotion. Elles servent également à créer un courant d'eau pour leur nutrition, respiration, excrétion et osmorégulation. Il n'y a pas de différence morphologique entre cils et flagelles. Ce sont des structures formées d'un axonème, cylindre de microtubules en arrangement 9+2, 9 paires de microtubules périphériques et 2 microtubules centraux. Toutefois, le cil est plus court et propulse l'eau parallèlement à la surface qui le porte en effectuant des mouvements pendulaires, alors que le flagelle propulse l'eau parallèlement à son axe par des mouvements ondulatoires. L'axonème est recouvert par la membrane plasmique. À son point de pénétration dans le cytoplasme, la paire de tubules centraux s'interrompt et un microtubule s'ajoute à chaque paire périphérique pour former le cinétosome. Le cinétosome est un tube court de 9 triplets de microtubules, de constitution identique à celle des centrioles qui organisent le fuseau mitotique. Tous les cils et flagelles de protozoaires et métazoaires possèdent à leur base un cinétosome également appelé corpuscule basal, granule basale ou blépharoplaste. Pseudopods. Les pseudopodes, pseudophaux, podopiés, constituent le principal moyen de locomotion des amibes mais sont présents chez tous les animaux. Chez l'homme par exemple, la plupart des mécanismes de défense contre les agents infectieux se fait grâce aux mouvements amiboïdes des leucocytes. Ces mouvements, comme ceux des fibres musculaires, se font grâce aux microfilaments d'actine qui confèrent sa toxotropie au cytoplasme. Chez les protozoaires, les pseudopodes existent sous diverses formes. Les lobopodes sont des pseudopodes larges contenant ectoplasme et endoplasme, comme chez le genre Limax. Les filipodes sont des extensions fines souvent ramifiées ne contenant que l'ectoplasme, comme chez le genre Glypha. Les réticulopodes sont des pseudopodes semblables aux filipodes qui se rejoignent pour former un réseau en forme de filet, comme chez le genre Globigerina. Les axopodes sont des pseudopodes constitués de filaments axiaux longs et fins contenant des microtubules arrangés en spirale où se meuvent parfois des portions de cytoplasme. Les axopodes peuvent s'allonger ou se rétracter, permettant à l'organisme de se déplacer en roulant tel un ballon. Excrétion et osmorégulation. Des vacuoles contractiles qui se remplissent de liquide et se vident par intermittence sont de complexité variable. Souvent appelées vésicules d'expulsion d'eau, elles jouent un rôle dans l'osmorégulation. Chez les protozoaires vivant en eau fraîche, elles sont beaucoup plus actives que chez les endosymbiotes pour qui le milieu extérieur est plus isosmotique, à la même pression osmotique. L'excrétion des déchets du métabolisme se fait généralement par diffusion. Chez les amibes, les vacuoles contractiles se forment par fusion progressive de petites vacuoles, puis s'accolent à la membrane plasmique pour vider leur contenu à l'extérieur. Chez certains ciliés comme les paramécies, les vacuoles contractiles ont une position fixe et se contractent par alternance. Nutrition. Les protozoaires peuvent être classés en deux groupes, les autotrophes et les hétérotrophes, selon qu'ils synthétisent ou ne synthétisent pas leurs constituants organiques à partir des substrats minéraux. Les autotrophes se nourrissent grâce à une activité photosynthétique. Chez les hétérotrophes, on distingue les phagotrophes, qui se nourrissent par phagocytose, et les osmotrophes, qui se nourrissent par absorption de petites molécules dissoutes. La nutrition des phagotrophes ou nutrition holozoïque. Ici, les protozoaires capturent leurs nutriments ou leurs proies par des pseudopodes, comme les amibes, par suction, comme didynium, ou par action combinée de flagelles et d'une collerette, comme codociga. Les particules à digérer sont généralement contenues dans des vacuoles alimentaires ou phagosomes. Les lysosomes contenant des enzymes fusionnent alors avec les phagosomes dont le volume diminue au fur et à mesure que les produits digérés gagnent le cytoplasme. Chez certains protozoaires, comme les ciliés, flagellés et apicomplexa, le site de phagocytose est une structure buccale bien définie appelée cytostome et une structure d'expulsion de déchets appelée cytopige ou cytoprocte. La nutrition des osmotrophes ou nutrition saprozoïque. Elle se fait par pinocytose ou par diffusion, mode de nutrition des espèces endosymbiotes. Certaines molécules importantes, telles que le glucose et les acides aminés, seraient fournies par diffusion facilitée et transport actif. Reproduction. Une des principales caractéristiques des protozoaires est leur grande capacité de multiplication. On distingue deux modes de reproduction, asexués et sexués. Reproduction asexuée. La fission ou sissiparité est le processus de multiplication asexuée qui résulte en la production de plusieurs individus. Le type le plus courant est la fission binaire qui résulte en la production de deux individus fils essentiellement identiques. Lorsque l'individu fils est de taille considérablement moindre que celle du parent, on parle de bourgeonnement, cas de certains ciliés. La fission multiple ou schizogonie est une division du cytoplasme, cytokinèse, précédée par une ou plusieurs divisions nucléaires. Si la fission multiple est précédée ou associée à la fusion de gamètes, elle est appelée sporogonie. Le processus de division chez les protozoaires se distingue de la mitose des métazoaires par la persistance de la membrane nucléaire à toutes les étapes. Les centrioles n'ont pas été observées chez les ciliés, où le macromoyau s'allonge simplement et se divise. Ce processus est appelé amitose. Reproduction sexuée. La multiplication sexuée est largement représentée chez les protozoaires. C'est un moyen de recombinaison génétique. Les gamètes, noyaux ou pronucléi qui fusionnent pendant la fécondation pour donner un œuf ou zygote reconstituent le nombre diploïde de chromosomes de l'espèce. Quand les gamètes sont semblables, il s'agit d'une isogamie. Plus fréquente est l'anisogamie où les gamètes sont dissemblables. Si la méiose a lieu juste avant la formation des gamètes, comme chez les métazoaires, on parle d'une méiose gamétique, comme chez les hélicosaires ou ciliés. Une méiose se déroulant directement après la fécondation est dite méiose zygotique, comme chez les sporozoaires. La fusion entre deux gamètes individualisés pour former un zygote est une syngamie. Chez certains protozoaires, les noyaux gamétiques issus d'une méiose se forment un zygote dans le même organisme. C'est l'autogamie. Dans d'autres cas, les noyaux gamétiques sont échangés entre deux individus appariés. C'est un phénomène de multiplication sexuée caractéristique des ciliés, appelé conjugaison, enkystement et dékystement. Les protozoaires qui se rencontrent partout où la vie existe sont extrêmement aptes à l'adaptation. Ils survivent aux conditions drastiques des habitats qu'ils occupent grâce à leur capacité de développer des kystes, formes qui sont recouvertes d'une coque résistante. Les individus enkystés se caractérisent également par leur métabolisme ralenti et la régression de certaines organelles telles que cils et flagelles. Pour certaines espèces, l'enkystement est cyclique et propre à des stades de développement précis. Pour d'autres, il est la conséquence de changements environnementaux tels que la dessiccation, l'hypoxie, le changement de pH et de température ainsi que la déficience du milieu en éléments nutritifs. Mode de vie. Les protozoaires sont en majorité hétérotrophes libres aquatiques. Certains sont symbiotes. La symbiose, c'est le fait que deux êtres d'espèces différentes vivent ensemble dans une relation intime. Si l'un des individus en profite sans affecter l'autre, on parle de commensalisme, comme les ciliés dans la panse des ruminants. Quand l'association des symbiotes est à bénéfice réciproque, c'est le mutualisme. Exemple. Algues plus champignons égale lichen. Si l'un des individus en profite en affectant l'autre, il s'agit du parasitisme. Exemple. Plasmodium chez l'homme. L'un des symbiotes est le parasite et l'autre est l'hôte. Notion d'embryologie. Après la fécondation, l'œuf se divise plusieurs fois. Ceci aboutit à la formation d'un germe plein de cellules appelées morula. Puis il apparaît au centre de la morula une cavité nommée blastocèle. Le germe devient ainsi une blastula, sa paroi est appelée blastoderme. Ensuite, la blastula va subir de nombreuses transformations dont l'ensemble constitue la gastrulation, pour aboutir à la formation d'un germe appelé gastrula. Chez tous les métazoaires, il se forme une gastrula à deux feuillets, ectoderme et endoderme. Chez les métazoaires triploblastiques, un troisième feuillet ou mésoderme apparaît entre l'ectoderme et l'endoderme, aboutissant à la formation d'une gastrula à trois feuillets. L'embryologie est l'étude du développement d'un animal, du zygote, œuf, à la naissance de l'individu libre capable de se mouvoir et de se nourrir, de l'embryon à la naissance. L'étude embryologique comparée de différents groupes du règne animal permet de comprendre leurs liens parentaux les uns par rapport aux autres. On dit alors que l'ontogenèse résume la phylogenèse. Ontogenèse égale développement de l'individu depuis l'œuf à l'état adulte, phylogenèse égale développement progressif d'une lignée, taxon ou groupe taxonomique, à partir d'une même forme ancestrale grâce à une série de transformations évolutives. La phylogenèse est étudiée pour établir la parenté entre les différentes espèces de la lignée. Le développement d'un individu se divise en plusieurs étapes dont les principales sont la formation des gamètes, c'est l'étape au cours de laquelle les spermatozoïdes et les ovocytes mûrissent. La fécondation, c'est la fusion de deux gamètes. La pénétration d'un spermatozoïde est toujours suivie d'une modification brutale du cortex de l'ovocyte pour empêcher une polyspermie. La segmentation ou clivage. Quelques heures après la fécondation, l'œuf subit une série de mitoses pour engendrer plusieurs cellules appelées blastomères. Cette phase aboutit à la formation de la blastula constituée de plusieurs couches de cellules entourant une cavité appelée blastocèle. La gastrulation, c'est le processus de formation des couches germinales. C'est une transformation rapide de la blastula, sans division cellulaire. Elle se déroule différemment suivant les espèces et aboutit à la formation d'une cavité à deux feuillets, un feuillet interne, l'endoderme, et un feuillet externe appelé ectoderme. On distingue quatre modes de gastrulation déterminés par la quantité de réserve vitelline de l'œuf. Gastrulation par invagination, la plus courante, où la blastula s'invagine à partir d'un pôle, forme une cavité appelée archentéron, futur tube digestif, et présente une ouverture appelée blastopore. Gastrulation par épibolie. Gastrulation par délamination. Gastrulation par migration. La position du blastopore. La position du blastopore et son évolution sont des paramètres très importants en systématique. Elle permet de séparer les métazoaires en deux grands groupes. Les protostomiens, chez qui le blastopore deviendra la bouche de l'individu libre. Les deutérostomiens, chez qui la bouche est néoformée. Le blastopore se retrouve ainsi à la partie postérieure de l'animal libre et forme l'anus. Chez d'autres, cette cavité est formée par le blastocèle qui persiste. Ce sont les achélomates, comme les platelminthes. D'autres animaux présentent un phocélome. Ce sont les pseudochélomates. Leur cavité est réduite à un espace entre le tube digestif et la partie du corps qui n'est pas entourée de mésoderme, comme les nématelminthes. La neurulation chez les vertébrés est l'individualisation du matériel nerveux, l'achèvement de la mise en place du mésoderme et du tube digestif primitif après la gastrulation. Ce stade de développement est appelé neurula. L'organogenèse. Les trois feuillets embryonnaires fournissent les cellules nécessaires pour la formation des organes suivant une distribution bien définie. La croissance. La taille des organes augmente et l'individu se développe vers le stade adulte. Différenciation des trois feuillets embryonnaires chez l'adulte. Les métazoaires diploblastiques. Ils sont formés à partir d'une gastrula à deux feuillets. Ils comprennent trois embranchements. Spongiaire ou éponge. Il existe dans leur paroi des cellules particulières, les choanocytes et les archéocytes. Cnidaire ou hydre. Leur paroi montre des cellules particulières nommées cnidoblastes ou nématoblastes. Il existe entre l'ectoderme et l'endoderme une substance aniste appelée mésoglée. Cténaire. Leur organisation est semblable à celle des cnidaires, toutefois, il n'y a pas de cnidoblastes. Chez la larve, il existe une ébauche de mésoderme. Certains auteurs réunissent les cnidaires et les cténaires en un seul embranchement, celui des solantérés. Les métazoaires triploblastiques. Ils se forment à partir d'une gastrula à trois feuillets. Selon la destinée du mésoderme, on distingue deux sous-groupes de métazoaires triploblastiques, les achélomates et les chélomates. Les achélomates. Leur mésoderme est dépourvu de cœlome. En effet, le mésoderme de certains métazoaires se creuse d'une ou de plusieurs cavités appelées cœlome. Le mésoderme des achélomates participe à l'édification de certains organes. Les principaux embranchements sont platelminthes ou vers plat. Leur mésoderme participe d'une part à la formation d'un tissu interstitiel appelé parenchyme, et d'autre part, à l'édification des organes ou appareils dont l'appareil génital est la musculature. Le tube digestif a un seul orifice qui sert de bouche et d'anus. Ils sont en général des parasites. Ils n'ont ni appareil respiratoire ni appareil circulatoire et leur système nerveux est diffus. Exemples. Planaria spica. Fasciella hepatica. Némertien. Il existe un appareil circulatoire, une esquisse de métamérisation, c'est-à-dire répétition de certains organes, et un début de cœlome. Nématelminthe, ou ver rond. Leur tube digestif est ouvert aux deux extrémités du corps, bouche et anus. Le corps est recouvert d'une cuticule chitinoïde, convergence avec les arthropodes. Ils sont en général des parasites et leur système nerveux est relativement concentré. Examples. Schistosoma mansoni. Tinea saginata. Tinea solium. Ascaris lumbricoides. Rotifères. Le système nerveux, le tube digestif et la cuticule sont organisés comme ceux des nématelminthes. Le corps présente des régions distinctes. Il existe autour de la bouche un organe cilié nommé appareil rotateur qui a un rôle nutritif et locomoteur. Le rythme des battements ciliaires donne l'impression d'une roue qui tourne. La partie antérieure du tube digestif montre un appareil masticateur particulier appelé mastax. Les chélomates. Leur mésoderme se creuse de cœlome. Suivant la destinée du blastopore, on divise les chélomates en deux ensembles, les protostomiens et les deutérostomiens. Les protostomiens. Le blastopore devient la bouche de l'adulte. L'anus est une néoformation. Le blastopore peut disparaître. Dans ce cas, il apparaît une fente longitudinale qui se cloisonne, la partie antérieure est la bouche et la partie postérieure l'anus. Leur corps est segmenté, avec une paire de ganglions nerveux et une paire d'organes excréteurs par segment. Ils s'accroissent à partir d'une zone de prolifération postérieure. Les principaux embranchements sont l'ophophorien. Une couronne de tentacules appelée l'ophophore entoure la bouche. Le tube digestif est en forme d'anse en U. L'anus devient ainsi dorsal. Ils sont tous marins. Annélides. Leur corps est divisé en plusieurs segments appelés métamères. Les segments successifs sont séparés par des cloisons nommées dissépiments. Leur corps résulte d'une métamérisation qui est le fractionnement du mésoderme en blocs successifs appelés somites. Chaque somite se creuse d'une cavité. L'ensemble des cavités ainsi formées est appelé cœlome. Le système nerveux est fait d'un cerveau dorsal relié à une chaîne nerveuse ventrale par un collier périésophagien. La chaîne nerveuse ventrale comprend en principe une paire de ganglions nerveux par métamère. Du fait de la position de la chaîne nerveuse, les annélides sont dits hyponeuriens, c'est-à-dire que leur chaîne nerveuse est en position ventrale par rapport au tube digestif. Le développement aboutit à la formation d'une larve particulière, la larve trochophore. Les annélides sont cosmopolites. Mollusques. Leur corps est mou et généralement protégé par une coquille calcaire sécrétée par un repli de la peau appelé manteau. Le corps n'est guère métamérisé. Il est divisé en trois régions, tête, pied et masse viscérale. Il existe une larve trochophore voisine de celle des annélides, mais avec une ébauche de coquille. Arthropodes. Ils représentent les trois quarts des animaux actuels. Leur corps est métamérisé et recouvert d'une cuticule chitineuse formant l'exosquelette. Chaque métamère est typiquement doté d'une paire d'appendices articulés. Les deutérostomiens. Le blastopore donne l'anus, la bouche étant une néoformation. Selon la position du système nerveux, on distingue deux sous-ensembles, les épithélionoriens et les épineuriens. Les deutérostomiens épithélionoriens. Leur système nerveux est localisé sous l'épiderme. Les principaux embranchements sont échinodermes, ils sont uniquement marins. Leur corps a une symétrie pentaradiaire qui détermine l'absence de tête, acéphale. Le tégument de l'adulte différencie un exosquelette dermique discontinu et constitué de productions calcaires. Ce tégument est formé de plaques juxtaposées supportant parfois des épines articulées, d'où le nom de l'embranchement. Leur cœlome est très complexe. Il organise d'une part la cavité générale du corps et ses dépendances, et d'autre part le système ambulacraire ou hydrocèle qui communique avec l'extérieur par le pore aquifère. Ce système est rempli d'eau de mer, celle-ci pénètre donc dans l'organisme et participe à son fonctionnement. Exemple, oursin, étoile de mer stomocordée. Ils ont un organe céphalique particulier, la stomocorde ou stomocorde. Cet organe se présente sous la forme d'un court diverticule en doigt de gant, à parois épaisses et vacuolaires. Il ressemble à la corde dorsale des chordées. Cette ressemblance et sa position, près de la bouche de l'animal, justifient la dénomination de stomocorde. Les stomocordés sont marins en général. Ils vivent fixés. On les appelle aussi les hémicordés. Leur corps se divise en trois régions, le prosome, le mésosome, le métasome. Chacune de ces trois régions est dotée d'un cœlome autonome. Pogonophores. Leur corps et leur cœlome reflètent la trimérie, c'est-à-dire qu'ils sont chacun divisés en trois segments. Ils sont de ce fait assez voisins des stomocordés, toutefois, ils s'en distinguent par l'absence de stomocorde, d'appareil branchial et de tube digestif, la présence d'un à 200 longs tentacules couverts de cils et servant à la respiration et à la digestion externe des aliments, et l'existence d'une cuticule glandulaire faite d'une substance voisine de la tunicine des urochordés. Leurs tentacules sont des expansions du corps pourvues de cœlome. Les deutérostomiens épineuriens. Leur système nerveux central est dorsal par rapport au tube digestif. Ce sont les animaux les plus évolués. Ils ont un axe squelettique médio-dorsal localisé entre le tube digestif et le système nerveux. Cet axe est une tigelle élastique nommée corde ou corde, d'où le nom de cordée qu'on leur donne. Les principaux embranchements sont tuniciés ou urochordés. Leur corps est enfermé dans une tunique sécrétée par l'épiderme et contenant une substance voisine de la cellulose, la tunicine, fait exceptionnel dans le règne animal. La corde est localisée dans la région postérieure du corps. Céphalocordée ou acranie.